Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h. Vous le savez, pendant une heure, il est à mes côtés dans ce studio tous les jours, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, je vais essayer de m'appliquer sur la diction tout particulièrement, puisque notre grand dossier du jour sera consacré à l'orthophonie. D'ailleurs, savez-vous quels sont les différents troubles que ces professionnels prennent en charge? Savez-vous que les orthophonistes s'occupent aussi bien des enfants que des adultes? Combien cela prend-il, par exemple, pour soigner un bégaiement chez un petit? Eh bien, pour en parler, nous recevrons dans ce studio Marie Thabaud de Botte. Elle est vice-présidente en charge de la promotion de la santé à la Fédération nationale des orthophonistes. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien focus sur une maladie dont on parle peu, mais qui peut être très handicapante pour les patients concernés, la rectocolite hémorragique. Le docteur Jimmy Mohamed fera un point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra aux questions d'un jeune homme qui n'a plus de rapport sexuel depuis 3 ans et qui n'en éprouve même plus l'envie.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question qui nous a été posée par Fred.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. C'est quoi la greffe de la cornée? J'en ai entendu parler, mais je voulais savoir si c'était possible. Merci pour votre réponse.
Alors pour répondre à cette question, on s'est tourné vers un grand spécialiste pour nous éclairer, le docteur Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild. On écoute.
Il existe effectivement des opérations appelées greffe de cornée en ophtalmologie. On distingue les opérations où on enlève la cornée malade dans sa totalité et on la remplace par la cornée issue d'un donneur. Et puis il y a des greffes partielles où on ne change que la partie de la cornée qui est atteinte. On les réalise la plupart du temps aujourd'hui sous anesthésie locale, mais dans certains cas, on doit recourir à une anesthésie générale, notamment pour les opérations qui concernent le remplacement total de la cornée. Et les indications de ces greffes sont heureusement rares. Ça peut être des interventions où la cornée a été très abîmée par un traumatisme. Il y a parfois des maladies de la cornée qui obligent à son remplacement total. Et on peut faire ça pour le kératocone, par exemple, quand il est très évolué. Des cicatrices qui compliquent l'évolution d'infections de la cornée, des abcès de cornée par exemple. Par ailleurs, on peut aussi changer la face profonde de la cornée, qui est une petite couche de cellules, et on fait ça quand l'ophtalmologiste constate un œdème chronique de la cornée qui gêne la vision du patient.
Voilà, c'était le docteur Gatinel au micro de Benjamin Lévesque. On va passer tout de suite à la deuxième question d'auditeur du jour. Une question pour vous, Jimmy. Écoutez bien, c'est Grégory qui nous l'a posée.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai ma sœur qui a un utérus bicorne et elle m'a dit que ça pourrait compliquer en fait un projet de bébé. Elle doit passer des examens et je voulais savoir si elle avait une chance de pouvoir avoir un enfant un jour. Voilà, je vous remercie pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Alors Jimmy, très concrètement, de quoi parle-t-on quand on parle d'un utérus bicorne, même si on comprend un petit peu bicorne, deux cornes, je ne sais pas.
Oui, en quelque sorte, la médecine est parfois compliquée, mais là c'est plutôt simple. Alors, c'est une malformation congénitale de l'utérus.
Ça veut dire qu'on naît avec ça.
On naît avec ça, et l'utérus, en temps normal, c'est une cavité qui n'a pas tout à fait la forme d'un ballon, mais imaginez ça, et bien dans l'utérus bicorne, l'utérus prend une forme différente, il a une forme de cœur. Et donc forcément, il ne va plus avoir le même espace qui va être occupé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'utérus bicorne, donc il y a une malformation de l'utérus, mais en revanche, les ovaires marchent bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte hormonale et pas d'impact sur la reproduction en tant que telle.
Les femmes ont leurs règles, il n'y a pas de
raison.
Exactement.
Et ce n'est pas une maladie chromosomique ni génétique, c'est-à-dire que les femmes, pour autant, n'auront pas de problème de différenciation sexuelle. C'est juste une malformation unique de l'utérus.
Très bien. Alors, c'est une malformation, est-ce qu'elle est fréquente chez la femme? Et puis, comme le demande Grégory, est-ce que ça peut engendrer finalement des problèmes, parce que c'est ça qui nous intéresse, de fertilité chez les jeunes femmes qui sont atteintes?
Alors, plusieurs choses. Les malformations de l'utérus chez la femme, finalement, elles sont assez fréquentes. C'est 3 à 4% des femmes,
oui, quand
pour
même.
Toutes les malformations. L'utérus bicorne, ce serait la moitié. Ça veut donc dire qu'il y a 1 à 2% des femmes qui ont cette malformation. Donc, ça reste assez élevé malgré tout. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'autres malformations pour l'utérus, c'est vrai, mais souvent elles sont associées à d'autres malformations, comme des malformations de l'appareil urinaire, qu'il faudra dépister par la suite, et parfois aussi des anomalies vaginales. En ce qui concerne la reproduction, évidemment, qu'on peut éventuellement avoir des enfants, ce n'est pas un obstacle, mais il peut y avoir des difficultés. La première, on peut la comprendre assez facilement, c'est que, étant donné que l'utérus n'a pas tout à fait la même place, la même forme...
Un peu plus petit, parfois.
C'est plus petit, ouais. Et donc la nidation de l'œuf sera beaucoup plus difficile. Et puis, si jamais on arrive à tomber enceinte, il y a un risque de fausse couche qui peut survenir et qui peut compliquer l'aboutissement d'un projet de grossesse.
D'accord, donc être enceinte, ok, vous l'avez dit, c'est possible, ça peut être un peu plus difficile, mais c'est possible. Est-ce que cela peut empêcher le bon déroulement d'une grossesse jusqu'au bout, je dirais ?
Alors oui, donc heureusement qu'elles peuvent tomber enceintes, sans problème, parfois avec difficulté, mais ça peut quand même se régler. La grossesse n'est absolument pas une fatalité, mais par contre, il peut y avoir un risque de fausse couche, et donc ça peut être un peu plus difficile, un parcours un peu plus compliqué. Néanmoins, une fois qu'on tombe enceinte, évidemment que ces femmes vont être surveillées de façon très rapprochée, puisqu'étant donné que le fœtus n'a pas tout à fait la même place qu'habituellement, eh bien, il y a un risque de retard de croissance avec un plus petit bébé. Et puis il y a aussi un risque de menace d'accouchement prématuré, donc on peut naître prématurément à cause de ça, surtout que parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle une béance au niveau du col de l'utérus, c'est-à-dire que le col qui fait normalement une forme de toit, de protection, n'est plus suffisamment efficace et du coup à ce moment-là il y a un risque que le fœtus tombe.
Il peut s'ouvrir et accouchement prématuré.
Exactement, déclencher un accouchement prématuré.
Et alors on ne pourrait pas les opérer ces femmes pour remettre l'utérus à la bonne taille, à la bonne
alors,
forme?
Alors parfois oui, on a besoin d'opérer mais ce n'est pas obligatoire. On le fait quand on sait qu'il y a un mauvais pronostic obstétrical, on se rend compte que la grossesse sera quasiment impossible ou très compliquée. Si jamais il y a des fausses couches à répétition, et dans ces cas-là on opère et parfois quand il y a d'autres malformations, je vous ai parlé de l'utérus bicorne, il y a l'utérus cloisonné. Là, on est obligé d'intervenir un peu plus précocement.
Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est Marie Thabaud-Debotte. Elle est vice-présidente en charge de la promotion de la santé à la Fédération nationale des orthophonistes. Elle s'installe avec nous dans ce studio et nous fera un point sur les troubles qui peuvent conduire les enfants à consulter justement un orthophoniste et comment on les prend en charge, ces enfants. On y vient très vite. Donc, pour en savoir plus, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir dans ce studio notre invitée pour le dossier du jour. C'est vous, Marie Thabaud-Debotte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente en charge de la promotion de la santé à la Fédération nationale des orthophonistes. Et donc, avec vous, on va détailler ce qu'est finalement votre travail d'orthophoniste. Alors, on va parler de quelques-uns des troubles que l'orthophoniste prend en charge. Mais d'abord, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous expliquer grosso modo ce qu'est une orthophonie, je dis une parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes, je crois.
Tout à fait, oui, on est presque 97% de femmes orthophonistes. L'orthophoniste a plusieurs missions, la prévention, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des troubles de la communication, du langage oral, des apprentissages, de la cognition mathématique, de l'oralité et de la déglutition.
Ah, les mathématiques, si j'avais su. Alors, les orthophonistes, elles n'exercent pas qu'en cabinet, je crois. On peut les trouver dans d'autres structures aussi.
Alors, on les trouve actuellement essentiellement en libéral, mais on peut les trouver aussi à l'hôpital et en établissement de santé. Et puis, elles peuvent travailler avec un exercice mixte.
Alors, parfois, on résume l'exercice de l'orthophoniste à la prise en charge des enfants. Et on pense que vous n'intervenez que sur ça. Or, même sur des adultes, Mélanie a quelques troubles de l'élocution par moment.
Il le fait remarquer dès qu'il y a un petit décrochage, voilà, hein, mais aujourd'hui on a quelqu'un pour m'aider, ça tombe bien.
Exactement, je crois que vous pouvez faire quelque chose pour elle, et même beaucoup plus vieux dans la vie, on peut effectivement avoir besoin d'un orthophoniste.
Oui, tout à fait, l'orthophonie s'adresse à tous, du nourrisson jusqu'à la personne âgée. On peut intervenir sur un trouble isolé ou sur des troubles qui s'inscrivent dans le cadre d'une maladie ou d'une pathologie.
Parkinson, Alzheimer, les personnes en maison de retraite.
21, ouais, voilà. Et pour l'adulte, même suite à un accident de la vie, hein, comme un AVC, un traumatisme crânien, ou là, par exemple, dans le cadre du Covid.
Alors, on va détailler certaines des prises en charge que vous proposez chez les enfants. Aujourd'hui, on va s'intéresser à eux principalement. Mais avant ça, un mot quand même sur... la difficulté d'avoir des rendez-vous avec vous. Parce que moi, je suis passée par là en tant que maman et un an, je crois que ça a pris, je suis restée sur liste d'attente. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est un parcours du combattant parfois pour ne serait-ce que vous rencontrer une première fois pour un bilan?
Alors, nous en sommes tout à fait conscientes. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, des quotas d'entrée en centre universitaire qui sont insuffisants.
Le numerus clausus, hein.
Tout à fait,
comme
ça fait plusieurs
médecins,
années
c'est pareil.
Qu'on demande une augmentation. Cette année, on avait demandé 100 places, on en a eu 7. Et puis finalement, une cinquantaine dans le cadre du Ségur de la Santé. Mais ça reste insuffisant, on n'arrive pas à combler les départs à la retraite et puis la demande, tout simplement. On a également un report des demandes dans le secteur hospitalier et médico-social sur le libéral, parce qu'il n'y a plus assez d'orthophonistes en salariat, parce que les postes sont morcelés et pas suffisamment rémunérés en regard
donc
de notre qualification.
Une pétition en ligne pour
changer
un peu les choses.
Tout à fait, on a mis une pétition en ligne sur le site fno.fr que le grand public peut signer, les patients, les professionnels de santé pour nous soutenir.
On comprend donc l'orthophoniste, la prise en charge dans sa globalité de l'oralité. Mais avec cette période de Covid, est-ce que c'est plus compliqué pour vous de prendre en charge les malades puisqu'on doit être masqué? Est-ce que ça a un retard de prise en charge pour des patients qui ne peuvent plus vous voir ou est-ce que vous avez du mal à les faire progresser?
Alors, on continue les prises en charge. On travaille effectivement masqué, parfois avec une vitre de plexiglas. Pour certains patients, on va mettre une visière afin qu'ils puissent voir notre bouche.
Et puis, oui, la langue, le positionnement, c'est important.
Exactement, on essaye de varier. Donc on met notre visière 10 minutes, on remet notre masque, on soulève pour montrer. On fait ce
qu'on peut. Vous vous adaptez, quoi.
On a également le télésoin qui nous permet, pour les personnes les plus fragiles, de maintenir des séances.
D'accord. Alors, on va commencer par l'oralité, justement, si vous voulez bien, les troubles du langage oral chez les petits. Pour les parents de jeunes enfants qui nous écoutent, à partir de quel âge, grosso modo, expliquez-nous comment finalement se développe le langage, à partir de quel âge on se dit, là, il a 3-4 ans, il ne parle pas bien par rapport aux autres. À partir de quand on s'inquiète, à partir de quand ça doit être acquis?
Alors, en fonction des âges, on peut avoir plusieurs points de repère. Rapidement, aux environs de 12 mois, on commence à avoir les premiers mots. Là, si à environ 12 mois, on n'a pas de syllabes, vous savez que l'enfant, avant de parler, va faire du babillage, ba-ba-ba. Si on n'a rien aux environs de 1 an, il faut commencer à surveiller. À 2 ans, on a l'apparition des associations de mots. Les enfants vont commencer à parler avec des mots deux par deux. Papa, dodo, maman, parti. Si à 2 ans, on n'a toujours pas de mots, là, il faut faire attention, il faut commencer à se renseigner. À l'âge de 3 ans, on a les premières phrases avec l'utilisation du « je ». Au départ, l'enfant parle de lui à la troisième personne du singulier ou avec moi. À 3 ans, il commence à passer au « je ». À 3 ans, on peut avoir l'apparition du bégaiement. Et si on a une absence de phrase, là encore, il faut s'alerter.
Qui décide de vous adresser à un enfant? Parce que j'ai le sentiment que c'est souvent les maîtresses qui alerte et puis les parents vont voir le médecin qui dit bon bah allez voir l'orthophoniste. Est-ce que c'est le schéma classique?
Oui, c'est vrai que ça arrive souvent. Les professeurs des écoles nous orientent, enfin conseillent aux parents d'aller consulter. Il faut dire qu'en même temps, ce sont eux qui voient les enfants la journée. Ce sont des professionnels de la petite enfance, donc ils ont toutes les compétences pour pouvoir repérer des difficultés. Et nous travaillons uniquement sur prescription médicale, donc il faut aller voir son médecin.
D'accord. Et un enfant de 3 ans, puisque c'est l'âge auquel en général on rentre en maternelle, qui ne parlerait pas très bien, qui n'a pas un vocabulaire très riche, vous avez dit, normalement on commence à associer plusieurs mots, on fait des phrases à 3 ans.
À 3 ans,
voilà.
On fait des
phrases. Combien de mots par exemple? Parce que je crois qu'il y a un nombre de mots moyen qu'un enfant de 3 ans est censé maîtriser.
Alors à 3 ans, on parle d'explosion lexicale, puisque l'enfant va passer à un stock de vocabulaire beaucoup plus fourni. Environ, on estime que le stock peut être de 400 à 900 mots en fonction des enfants.
Oui, donc la fourchette est large quand même.
Oui,
hein,
la fourchette est large parce que le développement, même s'il suit un même fil, il va quand même avoir un petit peu de décalage de quelques mois d'un enfant à l'autre et c'est normal.
Alors sans parler des enfants qui ont des malformations particulières ou des pathologies particulières, à partir de quel âge on peut faire un bilan ou prendre en charge un enfant dans votre cabinet d'orthophoniste, pardon, puisque parfois à 3 ans, ils sont pas très, on a du mal à les faire tenir en place, peut-être un peu plus tard.
On a le savoir-faire.
Elles savent les dresser, vous inquiétez pas.
Non, on peut déjà intervenir, même parfois avant. Moi là, j'ai
avant
eu l'occasion
3 ans,
de voir un enfant de 2 ans et demi. Dans le cadre d'une grande prématurité.
On peut vous le laisser pour vous les gardiez aussi ou...
Non, ça ne fonctionne pas.
Au moins, ils apprendront à parler correctement. Ah oui, 2 ans et demi, ce n'est pas évident quand
même. J'en ai un chez moi de 18 mois, je vous le laisse tout le week-end.
Il a beaucoup de problèmes, hein,
oui,
je crois.
Oui, oui, je pense qu'il a besoin de un peu de réconfort.
Alors, quand les petits-enfants commencent à parler vers 3 ou 4 ans, il y a pas mal aussi d'enfants, vous le disiez vers le début de la maternelle, qui peuvent commencer à bégayer, justement. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression que ces petits-là, qu'il y a une explosion de mots dans leur tête. Parfois, la bouche va plus vite que la tête.
Tout à fait.
Et moi, je sais, ma petite fille, elle dévoile. Mais je ne sais pas si on peut déjà pas parler d'un bégaiement, c'est parce qu'il y a aussi cette excitation de « je sais dire plein de choses, j'ai envie de dire plein
Exactement.
De choses ». Donc à partir de quand on dit « ah là, c'est peut-être un peu pathologique ».
Alors c'est pas évident et il faut faire la différence effectivement entre l'explosion lexicale et l'explosion du langage qui fait que l'enfant va hésiter parce que effectivement la bouche peut aller un petit peu plus vite que sa pensée. Et un bégaiement, le bégaiement va être caractérisé par une tension excessive. Donc il va y avoir des répétitions de sons, de syllabes, des blocages. On a la sensation que les mots veulent passer en force. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, cette tension excessive.
Vous voyez, Jimmy, pas de tension, allez-y tranquillement. Alors Marie Tabot de Botte, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer ce focus sur les troubles du langage pour lesquels l'orthophonie peut être d'un grand secours. Alors justement, on va rentrer un peu dans le détail. Comment traite-t-on le bégaiement ou un enfant qui zozote par exemple? En combien de temps peut-on espérer voir les premiers résultats, les premiers progrès? On va vous détailler un peu le travail des orthophonistes pour arranger ça tout à l'heure. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité dans ce studio, c'est vous, Marie Tabot de Botte. Vous êtes vice-présidente en charge de la promotion de la santé à la Fédération nationale des orthophonistes. Et donc, on va parler de la prise en charge de ces orthophonistes. Une rééducation, par exemple, pour un bégaiement, on a un petit peu débuté tout à l'heure, ou un trouble articulaire, par exemple. Vous, les orthophonistes, d'abord, avant de commencer quelques rééducations que ce soit, Vous devez faire un bilan. Et ce bilan, ce n'est pas un petit bilan. Hein. Ça dure un certain nombre de temps. Il faut prendre. Bon, déjà avoir un rendez-vous, ça, on a dit que c'était compliqué. Mais une fois qu'on l'a, ce n'est pas 5 minutes. Quoi.
Non, tout à fait. Effectivement, un bilan, ça peut prendre environ 2 heures. Hein. On va dire entre 1 et 2 heures. On va commencer par un entretien avec les parents et puis l'enfant pour savoir un petit peu comment s'est passé le développement et même la grossesse également, savoir avant comment ça s'est passé. Et puis ensuite, on va faire passer des tests à l'enfant, des tests qui sont normés. Donc ça va nous permettre d'avoir un rapport à la norme, de pouvoir situer en fait leur niveau, leur capacité, leurs difficultés et de savoir si ça relève de l'orthophonie ou non.
Si on prend l'exemple du bégaiement, par exemple, en moyenne, au bout de combien de temps on peut espérer faire progresser l'enfant ?
Alors, je prends toujours ces questions avec des pincettes parce que ça va dépendre de la sévérité du trouble, de l'investissement de l'enfant et de son entourage. Mais globalement, on peut avoir des résultats au bout de quelques semaines. En moyenne, un suivi en bégaiement va durer 1 année. En moyenne, ça reste 6 à 12 mois en moyenne.
Et il bégaye plus du tout l'enfant à la fin ou...
Alors, c'est important d'intervenir tôt, si possible avant 6 ans, parce que à ce moment-là, le cerveau de l'enfant est plastique.
Le rééduquez en fait aussi, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mmh. On va pouvoir changer en fait certains fonctionnements, certaines connexions neuronales qui vont faire que le bégaiement peut effectivement disparaître. Après, on sera plus dans un contrôle en fait. Mmh.
Comment ça va se passer d'ailleurs la prise en charge du bégaiement ? Donc un petit garçon, j'en sais rien, de 4 ans, admettons, qui vient pour un bégaiement, chaque séance, il va se passer quoi ? Enfin, on va pas détailler tout, mais quel est le type d'exercice que vous proposez ?
Alors, avant 6 ans, on va beaucoup travailler avec les parents. Les parents seront donc avec nous en séance. Ça va être très important d'expliquer ce que c'est que le bégaiement, d'où ça vient. Il y a une composante génétique, un terrain familial, une composante neurologique. L'objectif, c'est de déculpabiliser les parents qui n'y sont pour rien. On va essayer de donner des conseils à la maison à mettre en place.
Et c'est puis, quoi, par exemple, des petites les conseils
activités.
À la maison ?
Ça va être de respecter le tour de parole, de prendre son temps quand on discute, et puis d'essayer de donner le mot à l'enfant lorsqu'il bute, de lui proposer une solution. Est-ce que c'est ça dont tu voulais me parler ? C'est ce mot-là que tu voulais dire ? Oui. Et ne pas le laisser comme ça rentrer dans son blocage.
Combien de temps dure une séance et à quelle fréquence vous voyez les enfants ?
Une séance dure environ 30 minutes, en tout cas généralement pas moins.
Et une fois par semaine, deux fois par semaine, ça dépend.
Pour le bégaiement, en tout cas, moi personnellement, c'est une fois par semaine. Et puis, au fil des séances et de l'amélioration, la diminution du trouble, en tout cas, on va pouvoir espacer les séances une fois tous les 15 jours, une fois par mois.
On a compris que l'accompagnement à la maison et tous les conseils que vous distillez aux parents sont très importants. Mais vous, en séance, vous allez commencer par... ils ne savent pas lire ces enfants à cet âge-là, en tout cas s'ils ont 4 ou 5 ans, mais qu'est-ce qu'on fait par exemple comme exercice? Vous lui donnez des mots, il doit juste discuter avec vous, comment ça se passe?
Alors on a un programme en fait, moi j'utilise un programme australien qui fonctionne très bien, qui s'appelle le Lidcom Programme, qui en fait va consister en un renforcement positif des productions de l'enfant. On va commencer par des mots. On va chacun notre tour dire des mots à partir d'un petit jeu, par exemple, de loto. Et puis, quand l'enfant va le produire sans bégayer, on va renforcer ses productions en le félicitant, lui disant « mais joli mot, tu as bien parlé ». Et c'est ça qu'on va demander de faire aux parents à la maison.
Et ensuite, les troubles articulatoires à l'oral, quels sont les sons qui posent le plus de problèmes chez les petits, ceux pour lesquels on vous consulte le plus fréquemment?
Le plus fréquemment, ce sera pour les sons « che », je, ze, ce, les constrictives, le, le, re, et puis après tout ce qu'on appelle les clusters en R, tre, tre, tre. Ce sont finalement les derniers sons qui sont acquis et les plus difficiles.
Il y en a beaucoup d'enfants qui butent sur ces tre, creux. C'est pas tout de suite, je veux dire, il faut pas vous consulter immédiatement dès qu'il y a un tre qui est un creux à la
surtout
place.
Surtout quand ils regardent l'âne trop, ils savent pas le dire.
Oui, l'âne cro-cro, longtemps ils s'appelaient cro-cro chez moi.
Même
aussi,
vous, ouais. Mélanie, vous dites encore un cro-cro, il serait temps de faire des progrès.
Tout à fait, vous avez raison. On parle de troubles d'articulation quand l'erreur est systématique et durable. Normalement, un enfant doit savoir prononcer tous les sons de la langue à 6 ans.
D'accord.
Ouais, donc pas d'urgence, voilà. Parce que c'est vrai, on se met souvent la pression.
Moi, à 37 ans, cro-cro, c'est pas normal.
Ouais. Ouais. Non, mais par contre, on se met la pression en petite section de maternelle ou même chez les moyens. Vous dites à 6 ans, alors évidemment, il faut faire attention, il faut dépister, mais ça quand même laisse un peu de marge.
Ça laisse un petit peu de marge, effectivement. Chez les plus petits, on proposera le bon modèle. Quand il y a une erreur, nous, en tant qu'adultes, on va répéter en lui disant « Ah, c'est le chien que tu voulais me dire et non pas le sien. »
D'accord, parce que c'est vrai qu'on voit des parents, des fois, moi j'en ai vu déjà dans des restaurants, pas en ce moment, parce qu'il n'y a pas de restaurant, mais qui insistent, mais non, qui s'énervent même, hein, parce que parfois on en a marre, et qui insistent et que l'enfant devient tout rouge et puis il se braque. Et, donc non, il ne faut pas les corriger sans cesse, et en tout cas pas, pas d'un point de vue négatif, je veux dire.
Bah, disons que le trouble d'articulation, ça va être des difficultés à placer sa langue, ses lèvres correctement. Et c'est systématique et permanent. Donc en fait, le parent aura beau essayer de faire répéter,
l'enfant
répétera exactement le même mot. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux consulter.
Et à l'inverse, parfois, on a l'impression que certains parents sont les seuls à comprendre ce que dit l'enfant. C'est un langage qui s'est un peu instauré entre une nouvelle langue et les parents ne corrigent pas pour autant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être complaisant non plus, parce que c'est vrai qu'on a peur de les vexer. Mais non, c'est pas leur rendre service.
Vous visez pas ma fille, j'espère. Hein,
absolument pas, je ne permettrai pas Mélanie.
Disons que c'est important de rester ciblé sur le message et la communication. Avant tout, l'enfant veut vous raconter quelque chose et c'est à ça qu'on va porter attention. Et simplement, encore une fois, reformuler derrière lui ses propos correctement.
Moi, je la comprends, Jimmy. J'y peux rien si vous la connaissez pas bien. Alors justement, c'est ce que vous allez faire en séance, c'est des exercices de langue. Vous leur montrez, donc sans masque, quand vous pouvez, derrière votre visière ou votre plexi, comment bien la placer. Ils arrivent à apprendre au bout de combien de temps à bien la mettre, cette langue, par exemple, quand c'est ça le problème,
hein. Ouais. Alors, pour les troubles d'articulation, hein, de nouveau, c'est ce qu'on disait pour le bégaiement, ça va varier en fonction de la sévérité, de la motivation de l'enfant et de sa famille. Ça va varier aussi si le trouble d'articulation est isolé ou s'il y en a beaucoup.
Ah oui, parce que parfois, il y a les treux, les creux, les peu, les tueux.
Exactement. Ah oui, parfois, ils peuvent se cumuler.
D'accord. Mais quand il y en a un petit, on va dire, ça va vite, non?
Oui, ça peut aller en quelques semaines,
c'est
quelques mois, ça
deux,
peut être réglé.
Pas inquiétant.
Même chose pour l'enfant qui zozote. Vous allez réussir à le prendre en charge aussi rapidement? Est-ce qu'on peut faire disparaître ce zozotement?
Oui, tout à fait, on peut le faire disparaître.
Même si c'est un peu charmant quand même aussi, un petit garde-enfant qui zozote.
C'est vrai que c'est mignon.
C'est mignon.
Moi, en tant qu'orthophoniste, je vous avoue que non. Je trouve ça spécialement mignon. Mais...
Non, bah non, on est juste des parents gâteux, c'est tout.
Mais à partir du moment où ça ne pose pas de problème à l'enfant et où il n'y a pas de répercussions après sur ses apprentissages...
Parce que c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que c'est très grave finalement si on si on vous consulte pas parce qu'on trouve ça trop mignon le zozotement et que cet enfant reste avec ça? Ne pas les prendre en charge suffisamment tôt, c'est après plus difficile à prendre en charge si tout d'un coup, lui, à 10 ans, il en a marre et qu'il veut se faire traiter, ça va être plus difficile.
Non, je pense pas, parce que si l'enfant est motivé, justement, et a envie de le faire disparaître, on pourra aller assez vite.
Très bien.
Donc... En revanche, quand on a des tout petits qui ne l'entendent pas forcément et qui n'ont pas de gêne par rapport à ça, ça pourrait être très compliqué.
Marie Tabot de Botte, on va faire une courte pause, on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, Marie Thabaud-Debotte. Vous êtes vice-présidente en charge de la promotion de la santé à la Fédération nationale des orthophonistes. Et à présent, on va s'intéresser à une autre partie de votre travail qui sont finalement les troubles du langage écrit qui peuvent affecter certains enfants et que vous prenez en charge. D'ailleurs, ça commence à quel âge? Parce que là, on a dit écrit, forcément l'écrit. Alors vraiment, écrire des phrases, ça commence au CP, on imagine, mais même en maternelle, on apprend déjà à écrire un peu son prénom. Vous les prenez à partir de quel âge, ces troubles-là?
Alors, quand il s'agit de troubles du langage écrit, on va pouvoir intervenir généralement vers la fin du CP, le CE1, vers 7 ans.
En maternelle, il n'y a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, si un petit enfant n'arrive pas à écrire son prénom...
Alors, généralement, ça va être plus des difficultés d'ordre graphique. Donc là, on peut intervenir si ça pose vraiment un gros souci, même en dehors du prénom. Et pour ceux qui ont un trouble du langage oral sévère, on va parfois introduire la lecture dès la maternelle pour les aider à mieux parler.
Pour les parents, d'ailleurs, qui se posent des questions pour repérer s'il y a un problème, vous avez mis en place un site. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel?
Tout à fait. Les orthophonistes ont mis en place le site allo-ortho, qui est là pour répondre aux questions les plus fréquentes du grand public, que ce soit des parents, des adultes, des adolescents.
Mon fils a 3 ans, il ne sait pas bien parler. Ou
vous allez trouver une réponse sur le site allo-ortho, tout à fait.
Allo-ortho, donc on retient ça. On va passer d'abord commencer par la dyslexie. D'abord, c'est quoi? Je crois que c'est plus un problème de garçon, hein, notamment.
Alors effectivement, on retrouve davantage de garçons qui sont atteints de ce trouble, mais je ne peux pas vous dire pourquoi.
En tout cas, c'est plus de garçons.
Est-ce qu'il y a une part héréditaire à ça? Est-ce que si les parents sont dyslexiques, il y a plus de chances ou de risques que l'enfant le soit?
Alors effectivement, même s'il n'y a pas de gène de la dyslexie, il y a un facteur génétique et une composante environnementale également.
Donc vous les voyez, vous avez dit plutôt fin de CP, donc on va dire que ça démarre en général la prise en charge plutôt au début du CE1, on va dire. Comment ça va se passer lors de vos séances pour une dyslexie? Alors même la dyslexie, j'imagine que dedans il va y avoir des sous-types, peut-être ils n'ont pas tous exactement les mêmes problèmes concrets. Qu'est-ce que vous faites concrètement comme travail avec eux?
Alors il faut savoir que la dyslexie, c'est un trouble neurodéveloppemental, hein, donc on est toujours au niveau du fonctionnement du cerveau, et on va parler de dyslexie quand les troubles sont sévères et persistant au-delà de 6 mois, malgré une intervention orthophonique, malgré des aménagements à l'école. Voilà, donc un enfant qui confond un B et un D au CP, on ne va pas parler de dyslexie. Ce qu'on va faire, on va retenir que dans la dyslexie, le critère principal, c'est la vitesse. Ce sont souvent des enfants qui lisent très lentement. D'accord. Donc là, par exemple, avec une enfant, en ce moment, on travaille cette vitesse avec des lectures de mots. Elle a 8 ans, des lectures de mots ou de textes répétées. Donc tous les jours à la maison, il va falloir qu'elle relise le même texte en étant chronométrée par ses parents, en sachant qu'on s'est assuré au départ qu'elle comprenait bien ce qu'elle lisait, puisque c'est l'objectif de la lecture, accéder au sens de l'écrit.
Certains dyslexiques ont des problèmes, ils inversent les syllabes par exemple à l'écrit. Est-ce qu'on peut les aider du coup?
On peut aider les dyslexiques, tout à fait. Que ce soit des inversions de son, que ce soit des omissions de son, on peut également intervenir.
Les syllabes dont vous intervenez. Et en classe, vous disiez, il y a des adaptations à faire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut que les maîtresses, donc, parce qu'on en est au stade de la maîtresse, là, quoique j'imagine qu'on peut les suivre jusqu'au collège parfois, les maîtresses, on leur demande quoi comme aménagement? Et est-ce qu'elles jouent suffisamment le jeu?
Alors encore une fois, ça dépend de la sévérité du trouble.
Je voulais dire, ça dépend de la maîtresse, oui, ça aussi, j'imagine.
Enfin, ce sont des professionnels, encore une
fois. Ils commencent à avoir l'habitude de prendre en charge ces enfants-là.
Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne leur donne pas toujours les moyens humains et financiers de pouvoir mettre en place ces aménagements. Mais oui, des aménagements sont possibles, que ce soit augmenter la taille des caractères, par exemple, des documents, ou changer la police.
Mais elles le font pour tous les enfants ou juste pour celui-là, du coup?
C'est ça qui est compliqué.
C'est pas évident quand on a 30 élèves de...
Oui, tout à fait. Ouais. Donc parfois, l'enfant va pouvoir bénéficier d'une AVS, une auxiliaire de vie scolaire, qui va être là pour l'épauler, épauler aussi le professeur pendant la classe.
Est-ce qu'à terme, on peut guérir d'une dyslexie? Est-ce qu'on peut se débarrasser définitivement de ce trouble ou vous les aider à compenser avec des mécanismes?
Alors la dyslexie, comme la dysorthographie, comme je vous le disais dans la définition, ce sont des troubles persistants. Donc on ne peut pas dire qu'on en guérit. Les troubles persistent à l'âge adulte. En revanche, on peut déjà améliorer les capacités avec des entraînements. Et puis ensuite, pour les éléments qui posent toujours problème, compenser, tout à fait.
Vous les suivez jusqu'à quand, ces enfants-là? Parce que là, tout à l'heure, on parlait des troubles articulatoires. Ça, en 2-3 mois, ça peut être réglé quand il n'y en a qu'un. La dyslexie, là, ce n'est pas 2-3 mois. J'imagine que c'est des enfants qu'on suit sur le long cours.
Tout à fait.
Peut-être plusieurs années, vraiment.
Oui, on va les suivre sur le long cours. Et de ce fait, on va intervenir par période, en fait.
Vous leur faites des pauses, quoi.
Exactement, ouais. C'est important pour tout
Sinon
le monde.
Ils tiennent pas, en plus, à l'adolescence, ouais. J'imagine, ils en ont ras-le-bol.
Bien sûr, donc généralement, on va prendre au début pendant 6 mois, 1 an, et puis ensuite, on va faire une pause, et à la demande, le revoir sur une période de 6 mois.
Est-ce que dyslexie est synonyme d'échec scolaire? Parce que c'est souvent le préjugé qu'on peut tous avoir. Est-ce que c'est des enfants qui réussissent moins bien que les autres?
J'ai l'impression de vous répéter la même chose à chaque fois, mais ça va dépendre de la sévérité du trouble et
mais
aussi de l'investissement.
Excelle, hein. Ça c'est un bon message. Vous m'avez dit, j'en ai certains qui excellent à l'école.
Tout à fait. Il y en a qui vont poursuivre leurs études, qui vont faire des études supérieures, des études d'ingénieur par exemple, parce que la seule chose qui va poser problème, c'est vraiment la lecture et puis l'orthographe. Tout le reste fonctionne à merveille. Donc à partir du moment où on a eu un entraînement qui a fonctionné, des aménagements avec par exemple un ordinateur, si c'est ça qui lui convenait, un tiers-temps aux examens, ces élèves-là vont pouvoir continuer leurs études.
Ils peuvent très bien y arriver comme les autres. La dysorthographie, est-ce que c'est la même chose que la dyslexie? C'est quoi la différence?
La différence, c'est que ça va toucher l'orthographe.
Que ça? Il y en a qui sont que dysorthographiques?
Généralement, ce sont des troubles associés.
Ouais, sont ensemble.
Ouais, très fréquemment.
Et c'est quoi, donc, vous dites des problèmes d'orthographe? Parce que bon, on n'est pas tous bons en orthographe. Je connais pas votre niveau, Jimmy.
Mais j'écris très mal, comme ça, on voit pas mes fautes d'orthographe.
De toute façon, on n'arrive pas à vous lire,
Exactement.
Mais je sais même pas si c'est bien écrit ou pas,
donc,
du coup. Mais ça, c'est un truc
fautes.
De médecin,
c'est un truc
souvent.
De docteur, ça.
Ouais. Mais alors, c'est quoi être dysorthographique, vraiment? Parce que Jimmy, juste, il écrit très mal, mais je sais pas où sont les lettres, en fait, puisqu'on les distingue très mal.
Alors, ce qu'on va retenir, là encore, il va y avoir vraiment une lenteur dans le traitement, hein, pour écrire, pour trouver les mots. Et puis, on va avoir des lettres qui manquent, la forme des mots qui ne va pas être la bonne, des lettres inversées, un mot pour un autre aussi, des substitutions.
Et là, c'est la prise en charge, c'est même ordre, parce que donc c'est pas la lecture, c'est écrire, vous les faites écrire du coup?
C'est le même fonctionnement.
En séance, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bah, il faut bien taper là où ça fait mal.
On n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais je crois que le travail d'après, c'est aussi tout celui qui a à faire à la maison. Parce que certes, vous les voyez une fois, deux fois par semaine, bon, c'est important. Mais s'il n'y a pas un suivi régulier à la maison, les progrès seront moins importants.
Tout à fait.
Veut dire que la famille, qui parfois les parents, bah, ils ont un travail, ils sont occupés. Enfin, ça demande du boulot familial aussi, hein. On est d'accord,
oui,
pour que ça aille plus vite.
Oui, c'est vraiment un travail de collaboration en fait, entre l'enfant, ses parents et l'orthophoniste. Finalement, nous, on va voir l'enfant, proposer des entraînements qui vont être adaptés, les tester en séance, et puis ensuite donner ces entraînements à la maison. On essaye de faire en sorte qu'ils soient courts et ils vont être répétés plusieurs fois dans la semaine.
Combien ça coûte une séance d'orthophoniste et est-ce que c'est pris en charge par la Sécurité sociale?
Parce que si ça dure des années et des années, c'est sûr que c'est important à savoir.
Alors, le coût d'une séance varie en fonction du trouble traité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'orthophonie est prise en charge à 60% par la Sécurité sociale et 40% par les mutuelles ou en reste à charge pour les patients. Et puis, pour les patients qui bénéficient de la CMU, à ce moment-là, on a une prise en charge à 100%.
Très bien. Merci beaucoup, Marie Thabot de Botte, d'avoir accepté de répondre à nos questions pour cet éclairage. Donc, on comprend mieux maintenant votre travail d'orthophoniste. Vous viendrez peut-être une prochaine fois nous parler de ce que vous faites avec les adultes aussi.
Avec
Très
plaisir.
Intéressant. Bonne continuation à vous.
Europe 1.
Dans un instant, les mots du quotidien focus sur une maladie dont on parle peu mais qui peut être très handicapante pour les patients, la rectocolique hémorragique. Docteur Jimmy Mohamed fera un point, alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors il est temps maintenant de passer aux mots du quotidien avec cette question de Séverine qui a motivé ce focus. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Alors j'ai appris que ma cousine a une maladie que je n'avais jamais entendu parler. C'est la rectocolite hémorragique. Là actuellement elle est hospitalisée. Sa mère me dit qu'elle a peu de chances de guérir. Je m'inquiète beaucoup, elle n'a que 28 ans. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Merci beaucoup, bonne journée.
Alors Jimmy, c'est une question un peu complexe, mais on va essayer d'y répondre le plus simplement possible. Jimmy, on va préciser un peu les choses, parce qu'effectivement, c'est peu connu cette maladie. La rectocolite hémorragique, c'est quoi?
Alors c'est une maladie inflammatoire du tube digestif, et comme son nom l'indique, ça touche le rectum et le côlon. Souvent, c'est plutôt la partie basse du rectum qui va être touchée, mais ça peut remonter sur l'intégralité du côlon. On connaît souvent son cousin, qui est la maladie de Crohn.
Oui, ça c'est plus connu, on en parle plus souvent.
Exactement, qui lui peut toucher l'ensemble du tube digestif en partant de la bouche jusqu'en bas. C'est une maladie qui va évoluer par poussée, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va avoir des symptômes et des périodes de rémission, où tout va aller bien et c'est une maladie chronique.
Comme beaucoup de maladies inflammatoires finalement, hein, il y a cette phase de poussée et puis des rémissions, c'est ça. C'est ce qui fait partie des MICI, c'est ça, les maladies,
exactement, les maladies inflammatoires, maladies
Crohn, ça,
exactement.
Et puis il y en a d'autres. Très bien, Jimmy. Alors si on imagine à peu près, parce que rien que dans le nom, rectocolite hémorragique, on comprend à peu près de quoi il s'agit, mais les symptômes, ce sont lesquels?
Alors, on a dit, c'est une maladie inflammatoire du tube digestif. Donc on comprend bien, si c'est une inflammation du tube digestif, vous allez avoir des douleurs abdominales, de la diarrhée, parfois des écoulements avec des diarrhées gléro-sanglantes,
wow.
Parfois des atteintes au niveau du rectum. Sauf que on parle d'inflammation au sens général. Et cette maladie s'accompagne aussi d'une malabsorption de fer. Et donc, c'est des gens qui vont avoir de l'anémie, puisqu'il y a un syndrome inflammatoire qui va s'auto-entretenir.
Une pâleur aussi. Ouais.
Exactement. Et à côté de ça, dans un tiers des cas, vous avez des manifestations extra-digestives, c'est-à-dire qu'on va avoir une atteinte articulaire. Des gens vont avoir des douleurs au coude, au poignet,
alors qu'ils ont une maladie de l'intestin.
Une maladie de l'intestin. Ils peuvent avoir des éruptions cutanées, on appelle ça des nodules. Et il peut même y avoir une atteinte oculaire avec une inflammation qu'on appelle l'uvéite. Et c'est dans ce contexte-là qu'on comprend bien que c'est une maladie inflammatoire, mais aussi immunologique, puisqu'elle va toucher de nombreux organes bien loin du tube digestif.
Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on connaît les causes de cette maladie?
La cause, on ne la connaît absolument pas, puisqu'il y en aurait plusieurs. Il y a des mécanismes qu'on suspecte. Alors, si jamais vous avez un antécédent familial de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, ça peut jouer un petit peu, pas tellement, mais ça joue malgré tout. Alors, l'hypothèse principale, ce serait d'une perturbation du système immunitaire et du microbiote de la flore intestinale.
On y revient.
On y revient toujours. En fait, en temps normal, les bactéries, elles sont là, elles font leur travail, mais là, elles seraient considérées comme des hôtes un peu agressifs. Et il y aurait une surréaction de notre système immunitaire, de notre tube digestif, qui va en compensation sécréter et donner ces douleurs abdominales. Il y aurait aussi une part peut-être environnementale, puisqu'on se rend compte que cette maladie est beaucoup plus fréquente dans les pays qui sont en cours d'industrialisation. Donc on peut se dire que la pollution, le régime alimentaire ou même notre stress psychologique pourraient contribuer au développement de la maladie.
Comment on la diagnostique, cette maladie? Bon, j'imagine qu'on a déjà tous les signes dont vous avez parlé, mais
dans
il y a des examens.
Temps,
oui.
Vous allez voir votre médecin traitant qui vous prescrira au minimum une prise de sang sur laquelle on va avoir de l'inflammation, donc on va avoir des globules blancs qui se sont élevés, des marqueurs de l'inflammation, de l'anémie, et ensuite il vous adresse au gastro-entérologue pour faire ce qu'on appelle une coloscopie. C'est explorer le tube digestif pour visualiser les lésions, puisque au niveau de votre côlon, on va avoir des espèces de trous, de la glaire, on va faire des biopsies qui vont permettre de confirmer le diagnostic.
Alors le traitement, je sais que c'est complexe, mais grosso modo, comment on prend en charge ces patients?
Alors on n'a pas de traitement pour l'instant miracle.
Pour guérir,
ça
n'existe pas.
Au cas par cas. Ouais. On va traiter essentiellement les poussées. Et lorsque vous avez une poussée de la maladie, on va se servir notamment des anti-inflammatoires. On donne souvent des corticoïdes, soit sous forme locale, il existe des suppositoires ou des sachets qu'on peut prendre, soit de la corticothérapie pour les grosses poussées. Et puis dans certains cas, on a recours à de l'immunothérapie, des immunosuppresseurs. Même si pour l'instant la recherche fait d'énormes progrès, il est possible que dans les mois ou les années qui arrivent, nous ayons des traitements beaucoup plus efficaces, puisque parfois on a recours à la chirurgie, on est obligé de retirer totalement le côlon et le rectum. Mais ça guérit souvent la maladie, mais c'est le stade ultime et on aimerait tous ne jamais en arriver là.
Merci beaucoup Jimmy pour cet éclairage et on consacrera peut-être bientôt une émission pour en savoir plus à ce sujet. Merci Jimmy.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures pour cette ultime séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio avec nous. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, Catherine, on a une question de Laurent qui a 47 ans. Je vous la lis tout de suite. Je n'ai pas fait l'amour depuis longtemps, dit-il. 2-3 ans, je dirais. Ah oui, et j'en éprouve même plus l'envie. Est-ce grave, Catherine? 2-3 ans quand même, je croyais que c'était en mois. Non, il écrit bien en année. Donc c'est quelque chose qui peut arriver même à des hommes. D'ailleurs, 2-3 ans sans aucun rapport sexuel.
Bien sûr que c'est aussi bien féminin que masculin. Vous voyez, vous tombez dans dans le panneau des idées reçues où les hommes sont toujours pleins de désirs et les femmes peinant et ne se faisant que l'effort de satisfaire ces messieurs. Eh bien non, c'est aussi vrai pour les hommes et les femmes. Il y a des moments, sans que ce soit comme chez les femmes parfois bousculées par des événements hormonaux, eh bien, où tout d'un coup disparaît le désir. Alors, est-ce que c'est grave? La réalité, c'est que ça n'est pas grave.
Il ne dit pas s'il n'en souffre pas, il dit qu'il n'en a même plus envie.
Voilà, donc ce n'est pas grave dans le sens où, de toute façon, c'est pas une maladie de ne pas avoir de désir et c'est pas une nécessité pour vivre d'avoir du désir. Ceci étant, c'est souvent une indication intéressante sur un plan qui pourrait être déprimé. Et du coup, je n'ai pas d'envie, ni d'envie de plaire, ni d'envie de séduire, ni d'envie d'être séduit. Ce qui laisse à penser quand même un rapport à l'autre qui s'éteint, comme on pourrait dire, j'ai pas envie de manger. Alors là, c'est encore différent parce qu'on a besoin de
manger.
C'est
obligatoire.
Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon, éventuellement, de quelque chose qui raconte le plaisir de la relation à l'autre et le plaisir par rapport à soi.
Et est-ce qu'un cercle vicieux va s'installer? Moins on a de rapport avec les autres, moins on en a envie.
Moins on mange, moins on a faim.
Exactement. Donc est-ce que justement, pour casser ce cercle vicieux, il ne faudrait pas remonter en selle? On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Est-ce que le fait de se forcer un petit peu permettrait de débloquer un peu la machine, si tant est qu'il fallait débloquer une machine?
Oui, c'est toujours compliqué parce qu'encore une fois, la comparaison nourriture et sexualité est une comparaison que moi-même je faisais tout à l'heure et qui n'est pas heureuse. Donc, parce que il y a de l'ordre du besoin et il y a de l'ordre de la créativité. C'est très différent. Or, c'est pas parce qu'on ne fait pas l'amour qu'on en perd le sens. Je crois que c'est fondamentalement parce qu'on crée une relation et qu'on est au plaisir de cette aventure que revient naturellement l'élan et le désir. Et c'est pour ça que c'est plus le sujet de la relation qui est à réfléchir que le sujet de la sexualité lui-même. Alors après, il peut y avoir aussi des désordres. Pour un homme, des désordres au niveau de la testostérone, c'est à réfléchir aussi, bien évidemment, puisque c'est la testostérone qui est l'hormone du désir, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc évidemment, il pourrait y avoir une raison.
Dans le S grave, Catherine, la question donc de Laurent, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas un petit souci médical, pour le coup.
Voilà, mais encore une fois, c'est à lui de voir si c'est un souci. Pour lui, de faire l'impasse.
Mais il demande si c'est grave, c'est qu'il se pose la question quand même.
En tout cas, il ne se sent pas en adéquation avec le reste de son environnement parce que ce n'est pas la dite norme au sens du plus grand nombre.
Mais est-ce qu'on est vraiment programmé pour ne pas avoir de relation avec les autres, quels qu'ils soient? Parce que là, il dit vraiment l'absence d'envie. Donc, on a le sentiment qu'il a un peu abandonné les choses. Il n'a que 47 ans.
Je peux peut-être puis il dit, il y a 2-3 ans, il avait des rapports. Donc, tout d'un
la
coup,
rupture
plus
avec un état antérieur, c'est je pour peux ça le que comprendre. Je... Bien sûr, après c'est pour une ça. Certaine de la maladie, un âge, on dit ça y est, j'ai tout vécu et je vois l'amour, la relation aux autres à travers d'autres accomplissements. Mais là, quand même, il est un peu jeune en plus.
C'est pour ça que je pose plus la question d'une dépression, plus ou moins masquée, peut-être suite à une déconvenue, et du coup, c'est vraiment le sujet.
Une rupture douloureuse, ça peut entraîner comme ça une baisse brutale de libido?
Ah, mais vous avez des gens qui, lors d'une rupture, il y a tout. Tout désir alimentaire, désir sexuel, désir de se faire beau ou de rentrer en lien, comme si tout...
La rupture peut faire entrer dans la dépression, clairement.
Voilà, et donc c'est ça qui serait grave, parce que ça peut amener d'un côté dangereux, puisque en général, avec ça, eh bien, il y a petit à petit une sorte de désinvestissement et d'autodestruction, d'une certaine manière, et du coup, s'accumulent tous les symptômes de dévalorisation, et puis ça devient de plus en plus difficile de remonter la pente. Donc c'est pas la sexualité qui serait à déplorer en premier lieu, mais ce que ça raconte, et c'est pour ça que la sexualité est un sujet intéressant, parce qu'il permet d'évaluer comment nous allons bien de part et d'autre.
Il n'a pas l'air d'aller très bien quand même.
Je ne crois pas, il y a quelque chose de trop triste à mon sens.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Mélanie, tu veux bien me filer peut-être quelques centimes, parce que Stéphane, il est ultra radin, du coup, pendant l'émission, on n'a pas d'avoir sur moi aujourd'hui.
Non, mais je vous ai payé 12 cafés cette semaine.
Qu'est-ce que vous racontez?
C'est le thème du jour, oh la pince, les avares de l'histoire. On va vous raconter l'incroyable histoire de Hetty Green, la sorcière de Wall Street. Jean-Paul Getty, qui était le milliardaire qui a refusé de payer pour la libération de son petit-fils qui avait été enlevé. Et vous avez trouvé un radin contemporain.
Ah oui, un radin vraiment étonnant, parce que moi, personnellement, je voyage en seconde classe, donc assez co, dans l'avion. Je vais dans des hôtels souvent 2 étoiles, maximum 3 étoiles.
Oui,
lui aussi.
Bien sûr,
mais
bien sûr.
Que lui, le problème, c'est que c'est le créateur d'IKEA. Il pesait 39 milliards de dollars, mais il roulait toujours en vieille Volvo.
Mais écoutez, ça va être très intéressant tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission et vous, restez sur Europe 1. Hein.